Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan pour la troisième saison. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Ciao à tous, ciao à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter et bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël, tout ce que vous voulez. Pour ce nouvel épisode, je suis évidemment comme d'habitude accompagné de mon ami et collègue Cédric. Salut Cédric.
Salut Giuliano, salut à tous et meilleurs vœux tout d'abord. Et effectivement, change pas une équipe qui gagne en 2024. On va continuer à vous offrir des contenus, des podcasts et on commence dès ce 8 janvier. Puisqu'on profite de la fin de la phase aller de la Serie A, la première partie du championnat s'est terminée donc ce week-end. Et donc nous, on va revenir sur le match contre l'Hellas Vérone. Succès 2-1, particulièrement étriqué, particulièrement Pazza Inter, on peut dire en un sens. Et puis, on parlera un petit peu aussi de toute cette phase aller, les 48 points, ce que l'on en a pensé, un petit peu des top flops de cette première partie de saison. Et puis, on regardera aussi les prochaines semaines des Nerazzurri. Bon, on commence donc, Giuliano, tout de suite. Inter et Hellas Vérone, 2-1.
C'est un match. Toi, t'as survécu au stade à ça, quoi.
C'est ça. Je pense que je suis confiant pour mon année 2024 parce que si dès le 6 janvier à 12h30, tu vas au stade un samedi comme ça, donc, déjà, il faut le rappeler, samedi, 12h30, il fait 5 degrés, tu vois, tu te dis un peu qu'est-ce que je vais faire là. Mais ouais, survivre à ça, surtout survivre aux 15 dernières minutes du match, je pense que le cœur est en place déjà pour supporter tout ce qu'il y aura à supporter en cette année 2024.
Oui, c'était fou. Hein. En plus, ça partait bien. C'est ça qui est dommage. Bah, après, comme d'autres matchs de saison, c'est que ça part bien pour l'Inter. T'as des occasions, t'as du beau jeu, je trouve. T'as des joueurs qui paraissent bien en forme. Mais voilà, on tue pas le match. Donc après, bah, tu te prends une surprise. Une surprise, pas vraiment, parce qu'au final, on s'y attend. On sait que il va avoir ce but adverse. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, bah, on a eu la chance de marquer vraiment. Tout à la fin, ça faisait longtemps une Pazza Inter comme ça, je me souviens plus. Peut-être pas si longtemps, mais en tout cas, je me souvenais plus avoir gagné comme ça à la fin. Bon, après, il y a son lot de polémiques, hein, le soi-disant coup de coude de Bastoni et au final d'un autre angle de vue. Un coup d'épaule avec une poussée du bras, avec un comportement aussi de l'adversaire qui est aussi discutable, peut-être une faute aussi avant le but de Vérone, voilà, plein de trucs, quoi. L'arbitrage a été catastrophique dans tous les sens des deux côtés, donc on va pas forcément revenir là-dessus. Et voilà, donc, bah, au final, quand même, on a les 3 points, c'est le plus important, et on finit ce premier tour avec 48 points, ce qui est excellent, mais un peu frustrant quand même.
Non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est excellent quand même. Il faut le rappeler, 48 points pour l'Inter cette saison. C'est le quatrième meilleur démarrage de l'histoire de l'Inter, puisque le meilleur, c'est 51 points en 2006-2007. Ensuite, il y avait eu 49 points en 2007-2008. Et ce sont deux saisons où l'Inter avait survolé les championnats. Et puis, il faut remonter, sinon à 52-53, avec 49 points après 19 journées. Si on met la victoire à 3 points, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était victoire à 2 points, mais si on met le classement sur les victoires à 3 points, à chaque fois l'Inter était invaincu lors de ces 3 saisons-là. Là, donc c'est l'Inter 48 points avec une seule petite défaite. Il faut la rappeler, cette défaite. Alors, ce qui est frustrant, d'ailleurs, pour faire le parallèle entre ce match contre l'Hellas Vérone et d'autres moments de la saison, justement, en étant au stade, c'est vrai que l'égalisation, là, ça va un peu venir parce qu'on sait une équipe de l'Inter qui est un petit peu éteinte. Alors, petite parenthèse, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un rappel physique de la part du staff d'Inzaghi, mais ce serait le bon moment, puisqu'effectivement, ils ne jouent qu'un match par semaine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit travail physique de fait, parce qu'on sent les joueurs, effectivement, qui sont empruntés depuis 2-3 semaines. Et il y a plus de mal à finir les matchs, ça s'est vu contre le Génois aussi. Ça avait été compliqué. Donc, j'espère que c'est ça, qu'il y a eu un vrai rappel physique, et donc de prendre le risque, en quelque sorte, d'être un petit peu mal pendant quelques semaines là, pour revenir fort sur février, mars, avril, lorsque les saisons se jouent, on le sait. Puisqu'il vaut mieux être un petit peu moins bien quand tu as un match par semaine que plutôt que quand tu joues tous les 3 jours. Donc voilà, mon santé, effectivement, l'équipe de l'Inter un peu éteinte. Et lorsqu'il y a l'égalisation de Vérone et puis un petit peu de brouillon de football, avec Arnautovic qui faisait n'importe quoi, avec Sanchez qui rentrait en trequartista et qui faisait n'importe quoi, enfin, j'ai l'impression que l'Inter était en train de faire comme contre Bologne, contre Sassuolo surtout, ces fins de match sans maîtrise et allait encore perdre des points. Et je me disais, si l'Inter ne gagne pas ce match, ils sont en train de jeter en l'air le championnat parce que ça va revenir sur les démons de 2022, un petit peu les mêmes choses, tu sais. Et donc moi, je trouve que c'est au-delà du contenu, au-delà de tout ça, le fait de gagner ce match, c'est important psychologiquement, parce que c'est une équipe moins bien physiquement, comme je le disais, et tu évites un petit peu de replonger dans des mauvais souvenirs.
Ouais, là, je trouvais que c'était moins flagrant, mais par exemple, contre le Genoa, où on fait match nul la semaine d'avant, j'ai trouvé vraiment l'équipe lessivée. Mais vraiment, là, pour le coup, c'était, je trouvais ça très flagrant que ça avait du mal à courir, etc. Bon, il y avait pas Lautaro, si je me
Contre le
souviens bien,
Génois,
contre
oui.
le Genoa. Donc, Lautaro, il fait beaucoup aussi dans l'animation offensive, surtout quand son remplaçant, c'est Arnautovic. Donc, ouais, contre les Genoa, j'ai trouvé que vraiment c'est compliqué. Mais il y a un truc dont je me souviens plus. Jouer pendant les fêtes comme ça, ils l'avaient fait une année, puis ils avaient abandonné, et là ils le refont.
C'est ça. Ils le
Ouais.
referont aussi la saison prochaine d'ailleurs, puisque ils ont décidé plutôt que faire une journée de championnat en milieu de semaine, s'il en janvier, parce que d'habitude le calendrier de janvier était très chargé. Là, ils préfèrent désormais jouer un match fin décembre et donc du coup ne pas faire de fête. Et c'est vrai que ça pose la question un petit peu du repos des joueurs, ça pose la question des calendriers, puisque du côté de l'Inter, par exemple, il y a eu 3 jours quand même de repos entre le match du Génois et la préparation de celui de l'Hellas Vérone. Mais c'est vrai que ça rend quand même la période assez délicate. Et je sais pas toi, mais du coup, le fait de pas jouer cette semaine, en milieu de semaine contre la Fiorentina, franchement, l'élimination contre Bologne en Coupe d'Italie, bon, moi je m'en suis remis, je sais pas toi, mais ok, faut gagner tous les matchs, faut gagner toutes les compétitions, c'est vrai quand t'es un grand club. Mais bon, vu l'état physique des joueurs, comme je disais, peut-être le rappel physique qui a été fait, c'est peut-être pas plus mal d'avoir cette semaine encore une fois complète de travail.
Ouais, c'était chiant évidemment de perdre contre Bologne en premier match de Coupe d'Italie, surtout que en plus t'as cramé les joueurs pendant 120 minutes, alors que si on perdait en 90 minutes, franchement ça m'allait, je m'en fous. Et en plus la coupe ça fait 2 ans qu'on la gagne, donc c'est pas grave. Et puis comme tu dis, ça nous laisse à quelques matchs de repos. C'est quoi? Bon, c'est l'histoire de 4 matchs de repos si on prend le total d'une Coupe d'Italie. Donc, c'est déjà ça de prix. Donc, non, c'est vraiment pas grave d'avoir été éliminé contre Bologne. Et surtout que, ouais, ici, ça va s'enchaîner, hein. Bon, on a Monza, ça va, normalement. Hein. Et après, on a la Super Coupe contre la Lazio. On a possiblement une finale de Super Coupe qui s'enchaîne 3 jours après. Et après, Fiorentina, ils sont en forme. La Juventus, c'est les deuxièmes. Puis la Roma. Et puis on a un petit écart contre la Salernitana, qu'on avait battu 6-1 à l'aller. Mais bon, un match n'est pas l'autre. Et après, c'est la Ligue des Champions qui recommence. Donc ouais, ça va être chaud, hein, d'enchaîner.
Non, c'est ça. Puis il y aura ce match contre l'Atalanta aussi, puisque les 4 équipes qui vont faire la Super Coupe, du coup, auront un match en retard et le match contre l'Atalanta aussi sera reprogrammé en février. L'Inter va jouer gros là sur les 6-7 prochaines semaines.
Cross, deviazione, Bastoni, traversa, traversa, poi Darmian il tiro, la parata, e gol, 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 Frattesi, cara di Roma, Inter in vantaggio, Inter in vantaggio, Inter in vantaggio, al minuto 48, con il gol di Frattesi, il gol del 2-1.
Mais avant de revenir sur ce que l'on peut s'attendre de 2024, on se fait un petit bilan 2023 sur cette phase aller entre les 19 premières journées de Serie A, la phase de groupe de Ligue des Champions, qualification donc en terminant deuxième du groupe derrière la Real Sociedad à égalité de points, et donc l'élimination, on le disait tout à l'heure, en Coupe d'Italie. Hors Lautaro, parce que bon, Lautaro, je pense qu'au-delà
Oui,
d'être
c'est
le meilleur
l'homme de
joueur
la
de.
saison, hein.
Voilà, hors Inter, même actuellement, c'est le meilleur joueur de Serie A en Italie même. Et d'ailleurs, on l'a encore vu ce samedi, et même la façon dont il améliore le jeu de l'équipe, au-delà de marquer des buts, mais surtout Thuram. Thuram, depuis 2 matchs, il n'était pas bon, il était absent. Là, même un Thuram un petit peu fatigué, on a retrouvé le Thuram dominant parce qu'il a Lautaro à côté de lui. Donc voilà, donc hors Lautaro, pour toi, quel est le top de cette première partie de saison de l'Inter?
Thuram, simplement. Parce que même si c'est vrai qu'il était en dessous les 2 matchs ici précédents où il n'y avait pas Lautaro, moi j'ai trouvé, je sais plus si c'était Lecce ou le Genoa, que franchement il jouait bien. C'est juste que il n'y avait pas Lautaro, il n'y avait pas un joueur pour reprendre ses ballons. Et en plus, voilà, Arnautovic, Je ne sais pas si c'est intéressant de dire à quel point c'est une catastrophe, ce mec. Oui, il n'en touche pas une. Mais bon, Thuram, c'est la grosse surprise de ce début de saison avec l'Inter. On s'attendait pas à ce que ce soit un joueur si complet, que ce soit le meilleur passeur. En plus, en ce moment, c'est le meilleur passeur de l'Inter ou de la
De
Serie A.
Serie A, de Serie A.
De
C'est
Serie A, carrément.
7 buts et 6 passes décisives en Serie A, en ce début de saison, Marcus Thuram.
Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup, qui dribble. Enfin, on a enfin un dribbleur. C'est fou, ça. T'imagines que l'année passée, notre meilleur dribbleur, c'était Dzeko? C'est grave
Avec
de dire ça.
Barella, ouais. Avec Barella, qui n'est pas un joueur qui dribble Barella, dans, c'est pas ses caractéristiques. Donc,
Et en plus, voilà, il provoque des pénaltys. Enfin, il marque, il donne des assists. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Et c'est dommage qu'on n'ait pas deux remplaçants en attaque capables de faire même le dixième de ce que Lautaro fait, parce que je pense que ça suffirait pour mettre en avant Thuram. Et sur ces matchs de Lecce et Genoa, il aurait été encore plus. Il aurait été encore plus félicité, je pense. Voilà. Et pour toi, du coup?
Je te le dis dans 30 secondes juste. Hier soir, on a fait un petit tweet sur le réseau X, ex-Twitter, pour vous demander un petit peu vos impressions, puisque l'on enregistre un podcast. D'ailleurs, il y a Alex Chamberlain qui te rejoint peut-être un petit peu en disant on ne sera pas champion si on ne recrute pas un autre attaquant. Donc, c'est vrai que c'est le vrai débat. On dit souvent que l'Inter a la meilleure équipe, le meilleur effectif de Serie A, mais c'est vrai qu'on voit la différence entre les deux titulaires devant. Et les deux remplaçants, Arnautovic, qui peut-être qu'on en parlera dans le flop tout à l'heure. Mais oui, il y a un gros problème. Il y a un problème surtout qui a l'air un petit peu mental aussi pour le garçon, parce que tu ne peux pas faire. Enfin, à un moment donné, quand tu rates une tête à 1 mètre du but et que tu repousses quasiment un but. Alors, on ne sait pas si le ballon allait rentrer ou pas, mais en tout cas, il est en avance sur le ballon, et donc il le fait sortir du cadre plutôt que le mettre dedans. C'était tellement gros qu'on aurait dit Lukaku par moment, tellement c'était horrible dans ses façons de rater des choses devant le but. Mais alors, pour moi, le top, je te rejoins sur Thuram, sur ce que tu as dit, mais pour un petit peu diversifier, moi je dirais Hendrik Mkhitaryan, parce que c'est une confirmation. Dans les stats, c'est pas exceptionnel, 2 buts, 5 passes décisives. Bon, il marque dans le derby par exemple, donc il marque aussi des buts importants. Encore sa passe décisive. Ce samedi, ça a l'air rien, mais c'est tout Mkhitaryan en fait, ça passe décisive. C'est comme ça a l'air simple, mais il est au bon endroit, au bon tempo, il la glisse parfaitement pour Lautaro. Du coup, Lautaro marque un but facile parce que Mkhitaryan le met parfaitement le ballon. Hendrik Mkhitaryan, pour moi, c'est ça. Alors, Çalhanoğlu, même s'il est un peu moins bien, lui aussi depuis 2 3 semaines, très très grosse saison, il met des pénaltys importants. Il progresse vraiment dans ce rôle de regista aussi, de façon dans son positionnement. Dans le pressing, tout très bien. Mais pour moi, le cerveau de l'équipe, c'est vraiment Hendrik Mkhitaryan. Et souvent, on reproche à Inzaghi de ne pas faire jouer davantage Fratesi. Oui, Fratesi qui est rentré, qui a mis un très beau but, qui fait parfois des bonnes entrées, parfois un peu plus difficile, mais en tout cas, qui a des qualités, qui sûrement est l'avenir de l'Inter. Mais Hendrik Mkhitaryan, c'est se passer de lui, pour moi, c'est quasiment impossible. Donc, je comprends pourquoi Inzaghi le met quasiment tout le temps, quitte parfois à prendre le risque de le fatiguer. Parce que bon, mais il a 34 ans quand même. Il vient de prolonger d'ailleurs de 2 saisons, là, il y a quelques jours, pour profiter du décret croissance qui est officiellement terminé. Donc, ils l'ont fait prolonger de 2 saisons avant le 1er janvier. Mais voilà, pour moi, Hendrik Mkhitaryan, c'est le symbole de l'inzaghisme, en quelque sorte.
En plus, le but de Lautaro contre Vérone, c'est une belle récupération de Thuram, il me semble. Et après, bah, comme tu dis, Mkhitaryan, moi, j'ai trouvé la passe terrible pour Lautaro, qui conclut avec un enchaînement contrôle-tir qui était vraiment superbe. Donc, c'est vrai que Mkhitaryan, cette saison, c'est assez fou. Et déjà, l'année passée, il a fait une saison où on ne l'attendait pas. Comment à ce niveau-là, il n'était pas titulaire. C'était Çalhanoğlu, Barella et Brozovic. Mais quand il rentrait, il savait quand même faire la différence. Donc c'est un bon exemple d'un joueur, un bon exemple de cette politique actuelle des transferts où on va chercher des vieux, des soi-disant finis à zéro ou presque. Et au final, il est décisif. Donc ça paye. Donc
On
c'est
pourrait.
vraiment, ouais, c'est vraiment un excellent transfert.
Mais comme Acerbi, qui au final aura coûté 4 millions d'euros, qui a 1,5 million d'euros net de salaire, et qui est le patron de la défense, et lui aussi, depuis 2-3 matchs, on le sent un petit peu moins bien, un peu fatigué. Bon, c'est pareil, il joue tout le temps. Il est jamais blessé. Il a joué 120 minutes même en Coupe d'Italie. Donc lui aussi, il est proche des tops dans ce début de saison. On peut mettre Di Marco, on peut mettre. Il y a plein de joueurs qui font une grosse saison. Mais bon, allez, le flop de ce début de saison pour toi.
Bah, pour tout le monde, pour moi comme pour tout le monde, c'est Arnautovic. Il est très loin de ce qu'il montrait avec Bologne les précédentes saisons. À Bologne, il avait vraiment retrouvé une présence, un sens du but. Et ici, moi j'étais content de le prendre. Je me disais, Arnautovic, c'est un attaquant qui a quand même qui s'est quand même imposé en Serie A. Et qui peut faire le taf en tant que remplaçant. En plus, il connaît aussi le club, il est déjà venu, donc il y a moyen que ça donne bien. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi catastrophique, mais vraiment catastrophique. C'est même pire que Correa, parce que Correa, il produisait rien, mais au moins quand on lui mettait le ballon dans la bouche, après il la poussait au fond. Arnautovic, il fait même pas ça. Ici, contre Vérone, tu l'as dit, il rate un but de la tête à un mètre de la ligne. Il y a un ballon qui arrive, je sais pas s'il la détourne ou si il n'arrive pas à la pousser. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Le seul but qu'il met, c'est un peu de chance.
Oui, effectivement. Mais c'était plutôt un bon match d'ailleurs, il faut avouer, contre le Génois, dans un match où l'Inter, on l'a dit tout à l'heure, avait plutôt été vraiment en dessous et ça s'en est plutôt bien sorti avec le match nul. Il met ce but et dans l'ensemble, il avait montré de l'envie, il avait montré des progrès, on va dire. Parce qu'il faut rappeler qu'il a été blessé aussi, comme Alexis Sanchez. Je pense, alors, tu vois, je te rejoins sur le flop. Moi, je mettrais l'attaque remplaçante. Parce qu'Alexis, c'est pareil, Alexis. Moi, je ne le comprends pas parce qu'on lui a payé. Le club l'a payé quand même pour le faire partir. Il faut le rappeler, ils lui ont donné 5 millions d'euros pour le faire partir et pour qu'il aille à Marseille. Alors oui, à Marseille, il fait une bonne saison, il met ses buts, mais bon, c'est en Ligue 1. On va pas critiquer de façon excessive la Ligue 1, mais c'est la Ligue 1, et là, on voit la différence. Et puis Alexis, on revient en sachant qu'il sera remplaçant, on se dit peut-être, mais non, c'est toujours le même Alexis qui, quand il joue pas tous les matchs, il n'a pas de rythme, qui de toute façon a besoin de faire ce qu'il veut lui et pas rentrer dans un schéma. Encore une fois, là, on l'a vu rentrer pendant un quart d'heure. Enfin, moi, je le regardais depuis le stade, parfois en dehors des possessions. Il est partout et nulle part. Il va à droite, à gauche, il n'y a aucune organisation. Arnautovic, à minima, il est à peu près dans le moule. Bon, il fait mal les choses, mais tu vois, il est à peu près dans sa position, il essaie de jouer pivot. Il est dans quelque chose de collectif. Alexis, non. C'est toujours le truc individualiste, désordonné. Donc voilà, donc pour moi, l'attaque, c'est problématique. A priori, il n'y aura pas de recrue en attaque, donc on devrait continuer comme ça. Et c'est vrai que c'est problématique, c'est inquiétant, parce qu'on a vu deux matchs sans Lautaro. Si on devait faire 5, 6, 7 matchs sans Lautaro ou même sans Marcus Thuram, ça pourrait très clairement être problématique pour cette seconde partie de saison, parce que partout ailleurs, il y a des remplaçants de qualité. On ne l'a pas dit dans les tops, mais on pourrait le mettre en révélation, c'est Bissek, par exemple, qui a fait 4 matchs de suite titulaire et qui était très bon en défense, qui a même marqué un but. Donc voilà, on voit Aslani qui, lorsqu'il rentre, fait le boulot. Carlos Augusto, même si là, ses dernières titularisations n'ont pas été terribles, lui aussi est plutôt bien depuis son arrivée. Donc, à peu près partout, il y a des alternatives, mais devant, non. Et donc, c'est vrai que c'est préoccupant.
J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de plan B en attaque. Le plan B depuis qu'Inzaghi est là, quand on perd, c'est mettre un maximum de joueurs offensifs et c'est le tout pour le tout. C'est vraiment comme à FIFA, hein. Tu te mets en ultra-offensif, Inzaghi, c'est ça.
Oui.
Et on le voit même avec la gestion de Klaassen. Klaassen, il va rentrer comme attaquant, comme milieu offensif. Enfin voilà, il va venir ajouter une présence en attaque et c'est son rôle. Et Arnautovic et Sanchez, c'est ça, c'est juste ajouter de la présence. Mais comme tu dis, il n'y a personne qui est adapté vraiment à la tactique. On pensait que ça allait être la force cette saison. Moi, j'étais vraiment convaincu que ça allait bien donner parce que ce sont quand même des joueurs de qualité sur le papier. Mais dans les faits, non. Apparemment, il faut privilégier des joueurs qui sont qui arrivent plutôt à comprendre et à appliquer les consignes de jeu d'Inzaghi à la lettre. Et même si techniquement ils sont moins forts, plutôt que des joueurs techniquement forts mais qui n'arrivent pas à s'adapter au jeu d'Inzaghi. Comme si le jeu d'Inzaghi était comme un jeu qui ne laissait pas place à, je sais pas, pas l'interprétation à la magie des joueurs, tu comprends, au fait que le joueur essaye de briller par son talent, par ses dribbles, en essayant de créer quelque chose. Évidemment qu'il y a les dribbles de Thuram qui comptent, mais Thuram, il respecte une position, il va sur la droite pour centrer, après il sait qu'il doit revenir vers l'axe. Enfin, voilà, et ça, Sanchez Arnautovic ne le comprenne pas.
Alors, je mettrai un petit bémol. Lors de l'époque Conte, c'était totalement ça. C'était une équipe qui était télécommandée quasiment par Conte. Et on le disait, pas de plan B pour l'Inter. C'est vrai qu'on voyait que lorsque l'Inter voilà, était en difficulté, ne savait pas quoi faire parfois pour s'en sortir, notamment en Coupe d'Europe. Avec Inzaghi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. En revanche, il a vraiment inculqué quelque chose à ses joueurs, c'est la compensation. C'est-à-dire que il y a beaucoup de liberté. On voit Bastoni qui des fois se retrouve ailier gauche. On voit Bissek ou Pavard, pareil, qui peut parfois se retrouver ailier de l'autre côté. On voit un Çalhanoğlu qui peut parfois être aussi bien avant-centre que défenseur central. Et par exemple, et moi, ça m'avait marqué, c'est Acerbi contre Vérone, qui à un moment donné fait une percée de 25 mètres balle au pied. Et tout de suite, Çalhanoğlu le voit partir et lui, tout de suite, va derrière. Il se met à la ligne de 3 derrière. Donc, il y a beaucoup de liberté pour les joueurs, mais il y a
Oui,
un cadre. Voilà.
je parle en
Oui,
attaque, hein, vraiment.
oui.
Évidemment que oui, il y a la liberté, comme tu dis, et c'est un très bon exemple avec les défenseurs centraux qui se retrouvent pistons ou qui se retrouvent à faire des montées exceptionnelles et le milieu après va permuter au niveau de la position. Mais en attaque, je trouve que c'est beaucoup plus figé, de mon point de vue.
Oui. Après, je pense qu'il y a aussi une très bonne entente, Lautaro Thuram, qui s'est créée. Et Arnautovic Alexis, très clairement, n'arrive pas à trouver cette alchimie-là. Et pourtant, on voit leurs coéquipiers à chaque fois qui essaient vraiment de les aider, hein. Je trouve ce qui est intéressant, il y a encore Çalhanoğlu qui a fait un message sur Instagram pour soutenir Arnautovic. On sait qu'ils sont très potes. Barella, alors, sur l'occasion, bon, le but aurait été annulé au final, mais Barella doit marquer. Il fait une passe à Alexis et au final, Alexis est taclé par le défenseur. Il n'y a pas but. Et puis derrière, il y a retour avec VAR et puis penalty pour les LAS. Donc le but aurait été annulé. Mais c'est pareil, Barella voit Alexis à ses côtés. Et plutôt que marquer et assurer le 3-1, il se dit je vais lui donner parce qu'il a besoin de marquer. Donc je trouve rassurant le côté esprit de groupe. On voit des joueurs qui veulent s'aider les uns les autres. Donc c'est très important. Mais je suis d'accord avec toi, offensivement, voilà, il y a un gap très très important. Giuliano, on a une recrue malgré tout qui vient de Belgique. Alors déjà, comment on prononce?
De ce qu'on m'a dit, c'est Teyon Buchanan.
Voilà, et il a signé 7 millions d'euros, donc un salaire autour du 1,5 million d'euros à peu près net. Donc il pourrait faire ses débuts contre Monza, puisque là il n'était pas encore qualifié, s'il a fallu qu'il retourne en Belgique et à l'ambassade du Canada pour avoir le permis de travail, puisqu'il ne fait pas partie de l'Union européenne, internationale canadienne donc, qui a signé. Alors on verra, on n'est pas forcément. Alors c'est compliqué parce que entre la différence, on parlait tout à l'heure du championnat français, championnat italien, mais la différence championnat belge, championnat italien est tellement immense que c'est compliqué d'évaluer. On l'a vu avec Charles de Ketelaere qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer par exemple à la Serie A après son transfert entre Bruges et l'AC Milan. On le voit un petit peu mieux à l'Atalanta cette saison, mais c'est quand même compliqué pour le jeune belge, donc on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était important de faire un coup pour l'Inter. Les dirigeants ont rapidement travaillé suite à la blessure de Juan Cuadrado, qui est blessé depuis 3-4 mois, qui a joué blessé d'ailleurs. Là, lorsque Dumfries était blessé, il a serré les dents avant de se faire opérer. Il reviendra en mars-avril, a priori, donc saison quasiment terminée pour Cuadrado. Est-ce que tu es content de ce recrutement, Giuliano, donc, qui vient renforcer le couloir droit? Il va alterner avec Dumfries, voire Darmian. Dans ce poste-là. Et puis on a l'impression aussi que c'est peut-être un achat anticipé, puisque Dumfries probablement partira en fin de saison, puisqu'il a refusé l'offre de prolongation. Et sans le décret croissance, je ne pense pas que l'Inter ira lui offrir les 5 millions demandés, parce que ça le mettrait quasiment à 10 millions bruts. Donc brut, il gagnerait plus que Thuram. Donc je vois pas l'Inter faire une telle folie. Donc si Dumfries part, on a l'impression que c'est peut-être un achat aussi anticipé pour préparer un peu l'avenir, non?
Oui, je pense aussi, hein, on le sait de toute façon qu'il y a un joueur qui sera sacrifié chaque saison, et là c'est bien parti pour que ce soit Dumfries. Et donc oui, c'est anticipé. La blessure de Cuadrado a accéléré la venue de Buchanan, sinon il serait venu cet été donc à l'Inter. Mais je suis content parce que c'est un profil qui, je pense, peut être intéressant. C'est un joueur qui sait jouer piston, il sait jouer, il sait dribbler, ce qui est important. Après, bon, ils sont nombreux, hein, les joueurs qui, à la base, savent dribbler, et une fois qu'ils viennent à l'Inter, ils savent plus rien faire, ils savent plus passer un homme. Donc ça, on verra. Mais c'est un profil vraiment offensif qui est intéressant. Après, il faudra voir au niveau de ses talents défensifs. J'ai l'impression qu'il est un peu plus faible de ce côté-là. Après, c'est pas non plus un joueur qui bute beaucoup et qui donne beaucoup de passes décisives. Cette année, il a mis 2 buts et il a fait 2 passes décisives avec Bruges. Et ces 2 buts, c'est contre des équipes pas terribles. En plus, dans une rivière de buts, il a mis un but dans un match contre Penn, qui n'est pas une très bonne équipe, 0-5, et après contre Molenbeek, 7-1, qui est pas non plus une bonne équipe. Donc faudra voir sur le terrain, mais je pense qu'il a le profil pour faire quelque chose d'intéressant.
Ben en tout cas, on verra son intégration sûrement progressive, puisque Dumfries lui est revenu de blessure. Il était titulaire ce samedi contre les Lazerone. Puis je rappelais, Darmian, bien sûr, peut toujours jouer à ce poste-là. On a vu Pavard aussi jouer un quart d'heure à ce poste-là contre Lecce et faire de bonnes choses, même si Pavard est venu justement pour ne plus jouer sur le côté. Voilà, ça peut être aussi une option en cours de match, surtout puisque l'on voit que Bissek fait encore une fois de belles choses. Donc ce sera sûrement la seule recrue de ce mercato, à moins qu'Alexis Sanchez n'écoute finalement son grand ami Arturo Vidal qui hier l'a supplié de quitter l'Inter pour aller à River par exemple. Mais qu'il écoute avec grand plaisir. Amigo, vas-y, écoute ton pote Arturo et rentre en Amérique du Sud. Et peut-être que du coup, comme ça, l'Inter pourrait bouger, peut-être anticiper un coup. Alors, ce ne serait pas Taremi, puisque de toute façon, déjà, le Porto ne veut pas le vendre. Et puis, il n'y a plus de place extra-communautaire pour l'Inter avec l'arrivée de Buchanan. Donc, de toute façon, Taremi ne pourrait pas arriver en janvier. C'est une certitude désormais. Mais voilà, peut-être un autre coup, peut-être last minute, comme on a l'habitude Marotta, si jamais Alexis venait à partir. On ne sait jamais.
Après, je sais pas si une nouvelle recrue va vraiment faire bouger les choses en attaque. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir Carboni revenir parce que il a l'air de faire une bonne saison avec Monza et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner dans un rôle de quatrième attaquant parce que je pense que troisième attaquant c'est peut-être encore un peu juste. Après, bon. Si on a toujours Arnautovic, évidemment que je préfère Carboni 100 fois devant lui.
Ben, Valentin Carbonnier, oui, il a fait une passe décisive et mis un but lors du match contre Frosinone, en plus d'avoir provoqué le but en son camp de Soulé. Donc il a vraiment fait un gros match, il s'impose de plus en plus. Et parmi les joueurs nés en 2004, nés en 2005, avec 2 buts et 2 passes décisives dans les 5 grands championnats européens, il n'y a que lui, Elie Junior Kroupi de Lorient, Warren Zaïre-Emery du PSG et Mathys Tel du Bayern Monaco, du Bayern de Munich.
Oui, j'allais dire.
C'est à l'italienne, pardon.
On a
C'est
l'habitude.
Monaco pour Munich. Donc voilà, c'est. Bref. Il progresse vraiment avec Paladino et c'est une bonne chose pour lui, effectivement, cette saison. On espère le retrouver fort la saison prochaine, surtout dans les rotations. Juste rapidement, pour parler de la suite, comment on la voit, je vous lis ce que certains nous ont répondu sur Twitter. Je vous le disais. Il y a Armand, notamment, qui était venu avec nous la saison passée dans un podcast et que sûrement on réaccueillera prochainement. Qui nous a écrit: mon impression est que depuis avril, nous avons vu peut-être pas la plus forte, mais la plus belle équipe avoir joué de ces 25 dernières années. Maintenant, il faut la seconde étoile pour que cette période puisse être rappelée à sa juste valeur. Le club ne cesse de grandir depuis 5 ans, leader en Italie et craint en Europe. Ce qui est paradoxal, puisque le club est en pleine période de récession économique et vend plus qu'elle n'achète. Mais c'est vrai on voit ce vrai parcours et cette vraie construction malgré tout depuis quelques années. Mais ça se voit au coefficient UEFA, ça se voit avec la qualification mondiale des clubs. Par exemple, que l'Inter est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, clairement, il faut cette deuxième étoile. Cette seconde étoile, c'est. On ne peut pas se cacher de Giuliano sur 2024, c'est ce que le club veut. Et vu la première partie de saison, je vous le rappelle, 48 points, premier à domicile, premier à l'extérieur, meilleure attaque, meilleure défense, plus de clean sheet, meilleur buteur, meilleur passeur. Mais, beaucoup de personnes le disent aussi, seulement 2 points d'avance sur la Juve.
Ben oui, c'est ça. C'est bien de faire plein de cinéma comme ça, mais au final, derrière, il y a une équipe qui, en jouant mal avec soi-disant un coach dégueulasse, ben arrive à tenir tête. Et ce qui est impressionnant, c'est que, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais que l'Inter et la Juve ont fait les mêmes résultats dans cette première partie de saison, à l'exception du match contre l'Atalanta, que l'Inter gagne et la Juve fait match nul. Donc c'est fou. La Juve a aussi perdu contre Sassuolo, aussi match nul contre le Genoa, contre Bologne, et le match nul bah, entre les deux équipes, forcément. Oui, il faut cette deuxième étoile, évidemment. T'es premier à la pause hivernale, pas pause hivernale, à la moitié de saison, avec 48 points. Donc, ça veut dire que si tu fais x2, si tu es sur le même rythme en deuxième partie de saison, ça te fait 96 points. 96 points, t'es pas champion, ce serait très grave, vraiment très grave. En plus que le deuxième, avec 46 points, ils ont 92 points.
Mais là, on est parti sur une lutte comme avait fait la Juve contre le Napoli il y a quoi, il y a maintenant 6-7 ans. D'ailleurs, le Napoli avait été champion d'hiver. À la fin de la phase aller, était premier, puis la Juve l'avait dépassé. Mais on est parti un petit peu sur une lutte. On a l'impression un petit peu dans ce schéma-là, très clairement, avec deux équipes. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'équipe qui jouait le mieux et qui était donc leader à la fin de la phase aller n'a pas été champion. Donc, il faudra faire attention malgré tout à la Juve. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de champion d'hiver, il y a Teddy Devismes qui nous a mis sur Twitter les classements des trois saisons précédentes à la fin de la phase aller. Donc 99-2000, première saison de Conte, la Juve avait 48 points, l'Inter 46. Ensuite, l'Inter un petit peu craqué, était revenu sur la fin. Bon, la Juve était championne sans difficulté. Saison 2000-2001, Milan avait terminé premier, il faut s'en rappeler, avec 43 points, l'Inter 41 seulement, entre guillemets, mais Milan avait un petit peu craqué en début d'année 2021. Au contraire, vous vous en souvenez sûrement, l'Inter sans Europe qui enchaînait les résultats 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 sur mars, avril, et qui avait été champion assez largement en avance. Et puis la saison 2021-2022, Inter champion d'hiver avec 46 points, deuxième l'AC Milan 42 points, et puis c'est l'AC Milan entre la victoire lors du derby. Et puis quelques épisodes du genre Radu à Bologne ou des choses de ce genre. Finalement, l'AC Milan avait terminé avec 2 points d'avance. Donc on voit que champion d'hiver, ça ne veut pas forcément dire champion au final, même si depuis l'instauration de la victoire à 3 points, c'est-à-dire depuis 1995, sur 29 précédents, 20 fois, le champion d'hiver était champion. Donc malgré tout, ça montre une certaine tendance.
Et c'est arrivé qu'une seule fois. Je me souviens cette saison-là où le Milan est champion, où on avait fait un épisode sur bah, la mi-saison, comme ça. L'Inter était champion d'hiver. Et ce n'était jamais arrivé que l'Inter perde le titre en étant champion d'hiver. Il me semble qu'on avait relevé cette statistique. Et c'est arrivé, du coup, cette année-là.
Donc, on se fait une fois, maintenant, voilà, ça ne va pas se reproduire, c'est bon, c'est
Voilà,
mettre ça,
on va dire que maintenant c'est
on va mettre
passé.
ça loin. Voilà. Et puis, notre ami Laborita aussi nous dit c'est incroyable pour une équipe qui devait jouer la 4e place en août, avec un petit emoji d'un rire un petit peu caché. Effectivement, il y avait eu beaucoup de critiques sur le mercato. Et c'est vrai que quand on voit l'Inter à ce niveau-là, et ne pas parfois savoir se contenter d'un match nul à Gênes, quand on voit que le Génois a fait la même chose contre la Juve et que le Génois était à quelques secondes de battre Bologne encore ce week-end. Voilà, il faut parfois aussi raison garder et savoir aussi regarder les matchs et se dire, ben voilà, tu ne peux pas gagner non plus tous les matchs. Ce n'est pas Manchester City, quoi, l'effectif. Puis même Manchester City ne gagne pas tous les matchs. Donc voilà, il faut savoir accepter parfois des petites contre-performances.
C'est assez fou ce qu'Inzaghi fait, je trouve, avec cette politique de paramètre zéro où on va acheter pour rien ou presque rien et de l'autre côté ben on doit vendre. Donc il se retrouve chaque année avec un effectif qui est assez chamboulé parce qu'on te retire une pièce maîtresse ou peut-être deux parce que là ben, on est sans Brozovic, sans Onana, sans Lukaku. Et malgré tout, bah, il arrive à faire une équipe qui tient largement la route. Donc, on va voir jusque quand ça va tenir, mais il y a un grand mérite à faire à Inzaghi pour le moment.
Puis 2024, ce sera aussi le 20 mai, avec le remboursement du prêt de la part de Steven Zhang et de la société Grand Tower qui gère l'Inter auprès d'Octree. Donc c'est 350 millions d'euros avec les taux d'intérêt, à voir s'il y aura un remboursement ou s'il y aura un allongement du prêt, on va dire en quelque sorte, en tout cas un remboursement via un autre fonds. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aura un nouveau prêt, mais pour un autre fonds avec des nouveaux taux d'intérêt, on parle de 12, 15, 18%. Donc, la facture passerait au-delà des 400 millions d'euros remboursés, bref, pour 2026, 2027, enfin plus. Les différents crédits, enfin bref, on fera un épisode peut-être financier plus tard, mais voilà, le 20 mai sera aussi important, puisque ça voudra dire son remboursement. Et puis l'autre dossier 2024, c'est le stade aussi, à Rozzano. Ça devrait avancer aussi, plus ou moins à la même période. On devrait en savoir plus si l'Inter va de l'avant ou pas définitivement sur ce projet donc de stade en périphérie sud de Milan.
Oui, ça a l'air un peu plus concret, j'ai l'impression, hein, par rapport à l'autre projet où on voulait raser San Siro, où ça aurait dû être en copropriété de nouveau avec le Milan.
C'est ça, de toute façon, ce projet-là est quasiment mort puisque le deuxième anneau de San Siro devrait en 2025 être protégé, donc ne peut pas être
Ouais.
détruit. Donc soit on restructure San Siro, donc soit on met 700-800 millions d'euros dans un stade qui appartient à la ville, en jouant pendant 3-4 saisons avec un stade à moitié en travaux et donc en faisant la moitié des recettes, ce qui économiquement serait aberrant, ce qui sentimentalement serait une chose magnifique, mais économiquement serait quasiment un suicide. Soit nouveau stade ailleurs, et comme à Milan, il n'y a pas de place, ce serait à Rozzano, puisqu'on ne peut plus rien construire à Milan, dans la ville. C'est devenu, voilà, ils ont dépassé tous les seuils, donc il faut détruire pour construire. Désormais, donc du coup, les clubs vont à l'extérieur de Milan, puisque c'est San Donato normalement pour l'AC Milan.
Ok, bah très bien. Et juste une petite chose, toi qui es milanais, du coup, on s'est allé assez facilement à Rozzano?
Ouais, alors faut prendre le métro, la ligne verte du métro, faut aller jusqu'à Assago, où il y a la salle de spectacle où joue l'Impia Milano et où il y a des concerts. Et ensuite, tu as 800 mètres, 1 km à pied pour rejoindre. Il faudra passer sous le périph, puisqu'il y a une sortie de périph, c'est une zone où il y a des embouteillages tout le temps. Donc, si jamais ils mettent un match le vendredi soir, par exemple, ce serait ou pour les matchs de Ligue des Champions, ça va être horrible, je pense, parce que c'est une zone qui est très, très embouteillée de Milan. Donc le dimanche, un peu moins, parce que bon, les gens ne travaillent pas, mais voilà, en semaine, je pense que ça va vraiment être catastrophique. Il faudra vraiment construire des parkings aussi. Mais voilà, après, oui, depuis le Duomo, en 40 minutes, tu arrives à Rozzano, donc c'est pas catastrophique, mais bon, c'est quand même un peu plus loin que San Siro, et puis bon, c'est pas à Milan, surtout, mais bon, c'est comme ça.
C'est moins confortable,
C'est ça,
j'avoue.
puis la zone, franchement, il n'y a rien. C'est
Voilà.
la zone périphérique la moins... si n'y allez pas. Je vous donne un conseil, si vous allez en week-end à Milan, Rozzano, non. Franchement, évitez. Même les gens qui vivent là-bas me le disz et voilà, c'est pas la peine.
En espérant qu'ils adaptent les transports quand même, si jamais le stade se fait dans cette zone. Ok, va bah très bien, merci beaucoup Cédric.
Merci à
Merci.
toi, Giuliano.
Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve bientôt, du coup, pour un nouvel épisode de Canal Inter. Ciao à tous.
Ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'azzurri.